France Inter.
Ici, une mini-ZAD, une zone à défendre, a été créée, mais le ministre de l'Intérieur n'en veut plus. Gérald Darmanin a annoncé hier la création d'une cellule anti-ZAD. Elle sera composée de 5 juristes.
C'est très difficile d'évacuer une ZAD, pour ne pas dire c'est extrêmement dangereux, et donc le mieux, c'est d'éviter qu'elle s'installe.
C'est un acronyme qui a fait l'actualité pendant des années, la ZAD. Il a ensuite quelque peu disparu après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'était en 2018. C'est le risque d'en voir une s'installer autour de la méga-bassine à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, qui a incité le ministre de l'Intérieur à créer cette cellule anti-ZAD. Les zones à défendre suscitent autant de peur que d'espoir. Terreau d'une ultra-gauche violente qui refuse l'autorité de l'État pour certains, et pour les autres, une terre d'expérimentation où le collectif prime sur l'individu et où le but est de sauver le vivant.
On vit en mode alternatif, on s'entraide, faut oublier, il n'y a pas que le côté marginal, bordel, punk à chien, machin. Il y a vraiment beaucoup de bonne énergie. C'est ce que j'ai toujours cherché, en fait, ici.
À Notre-Dame-des-Landes, quelques anciens zadistes sont toujours installés sur les 1600 hectares du site. Ils seraient entre 150 et 200 à y habiter, selon leur propre estimation, et vivent de leur travail dans le maraîchage, l'élevage ou encore l'artisanat. Après une décennie d'occupation des terres, le maître mot est la régularisation pour se maintenir sur le territoire, tant pour les exploitations agricoles que pour les habitations. L'État, tellement remis en cause par les occupants originels, devient un interlocuteur sur certains projets. Des liens existent désormais avec certaines institutions.
La question que pose la forme ZAD actuelle, c'est de savoir si au fond ce n'est pas devenu une zone acceptable, une forme d'écologisation d'un projet gouvernemental, puisque la forme actuelle sied, en tout cas en apparence, à tout le monde.
Pour arriver à la ZAD, il faut d'abord passer par le village de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, on s'engage sur la route départementale 281, longtemps appelée la route des chicanes. L'axe était parfois bloqué par des barricades. Aujourd'hui, les occupants sont devenus des résidents. L'ambiance n'est plus à l'affrontement, mais à la vie normale, dans un cadre qui ne l'est pas encore tout à fait. Notre-Dame-des-Landes, la ZAD après la bataille, c'est un reportage de Léa Gage avec Thibaut Nassimben à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On est passé par le centre-ville de Notre-Dame-des-Landes. Et là, il y a un panneau de signalisation avec un gros tag dessus. Il y a écrit ZAD. Donc là, clairement, on y est. On a rendez-vous avec Greg, qui est un ancien zadiste, qui s'est installé en éleveur de vaches à l'ouest de la ZAD. On arrive.
T'enregistres le chat ? Il parle pas.
Bonjour Greg, on est chez vous là?
C'est ça. Et là c'est la partie élevage de la ferme de Bellevue. En fait le tour va être vite fait, il y a deux bâtiments. L'ancien qui est là que j'ai un peu agrandi, rénové, et le nouveau là-bas que j'ai construit. Et tout le parcellaire est autour. Les prairies qui sont où pâturent les vaches. Voilà. On peut aller les voir d'ailleurs, ils sont juste à côté là. On a de la chance.
Allons-y. Là, c'est des herbes très hautes là.
Ouais, elles sont très hautes. Bah, c'est une prairie sur laquelle les vaches sont déjà passées juste à la sortie d'hiver. Et puis, ça a bien repoussé et il y a plein de graminées, pas mal de trèfles. C'est une prairie qui est super, qui est bien riche, c'est super.
C'est votre prairie?
Ouais. Je l'ai en bail, ouais. J'ai un bail dessus, ouais.
Un bail agricole, c'est ça?
Un bail rural, ouais, à tout environnemental. Un bail de 9 ans. Et il y a des annexes environnementales qui sont des contraintes environnementales un peu classiques qui ressemblent pour des prairies comme ça à celles de la bio avec un cahier des charges spécifique par rapport aux haies. Mais c'est lié au bail, c'est-à-dire que le non-respect de ces clauses entraîne la caducité du bail éventuellement.
Et ici, on voit en face de nous, il y a vos vaches.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est, bah non, c'est les vaches nantaises, c'est les, la race du coin. Ce que je fais là, pour moi, c'est vraiment dans la continuité de la lutte contre l'aéroport. Ces vaches-là, elles me servent de véhicule, d'outil pour continuer à préserver et à défendre ce territoire.
Parce que vous êtes venu ici à l'origine contre le projet d'aéroport,
ouais,
c'est ça?
Exactement. Ouais. Je suis arrivé en 2014, moi, à Notre-Dame-des-Landes. J'étais recherché, j'avais un an de prison à faire pour des dégradations, notamment des violences en manif. Et je me suis planqué ici. J'avais fait pas mal de prison avant, pour des vols avec armes, notamment. J'avais plus envie d'y retourner. Et puis, donc, en 2016, je me suis fait choper. J'ai fini, donc j'ai purgé la petite peine que j'avais à faire. Et c'est le moment où on attendait notre premier enfant, Billy. Quand je suis sorti et que je suis revenu ici, je me suis dit, voilà, il y avait une place qui se libérait dans le groupe Vache qui avait été installé à Bellevue. Et je me suis dit que c'était une activité qui marchait bien avec le fait d'avoir un enfant. Et en fait, je me suis aperçu que c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Voilà. C'était ma vocation.
Ah, elles nous regardent, les vaches.
Bah, elles vont râler parce que... Elle croyait que c'était l'heure du prochain repas, mais il reste un peu là quand même.
Elle nous regarde très attentivement. Hein.
Oui, oui. Bon, c'est super curieux, sociable les vaches. On va là-bas. On va boire un café.
Allez. On va chez vous alors.
Voilà.
Greg ne vit pas encore de son activité d'éleveur. Il vit dans son mobil-home en attendant de régulariser son installation dans l'ancien corps de ferme dont il est squatteur.
J'aurais bien fait interviewer les lapins, mais ils ne sont pas très loquaces.
Son objectif, préserver le bocage, maintenir son installation et la transmettre, c'est son combat aujourd'hui, depuis l'abandon du projet d'aéroport.
On arrive chez vous.
Voilà, on va aller au bureau. Merci à vous.
Merci. Là, on est dans une maison en pierre.
Oui.
Aujourd'hui, vous cherchez à régulariser cette installation dans ce bâtiment-là.
On est encore officiellement squatteur, mais on va dire squatteur d'un commun accord avec le propriétaire et nous, en attendant qu'on trouve une solution. Et ça fait quand même 4 ans qu'on cherche une solution. Et c'est vrai que c'est hyper long.
En passant en quelque sorte de la prison à la ZAD, vous vous attendiez à... trouver une telle stabilité?
Non, j'avais même pas idée que je pouvais vivre ça. Moi, je pensais pas que je pouvais, par exemple, avoir des enfants, que j'étais capable, que je pouvais transmettre, que je pouvais donner quelque chose, quoi, de positif aux autres. Voilà, être paysan, être éleveur, c'est pas grand-chose, mais je considère que c'est faire quelque chose par rapport à ce que je pouvais faire avant, c'est faire quelque chose de bien, faire quelque chose de juste, en tout cas.
Vous êtes un paysan comme les autres aujourd'hui?
Ouais, bien sûr, et c'était important, je pense, à un moment donné, de cliver, de dire, bon, voilà, il y a un clivage fort ici entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, en tout cas entre ce que représente la lutte et ce que représentent ceux qui soutiennent le projet d'aéroport. Mais là, dans mes pratiques agricoles notamment, pour moi, c'est important de pouvoir parler avec tout le monde, ouais. Être entrepreneur, c'est pas du tout l'essentiel du travail paysan, mais c'est quand même une entreprise, une ferme, et il faut être entrepreneur, ouais, il faut quand même pouvoir gérer, piloter l'entreprise.
Dans quel circuit vous vendez votre viande aujourd'hui?
90% de ma viande est vendue en caissette, principalement de 5 kilos à des particuliers, c'est dans des groupements d'acheteurs, dans les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc dans les communes alentours, ainsi qu'à Saint-Nazaire et à Nantes. Après, je mets toujours un peu de côté pour certains marchés. On a notamment le marché de la vacherie. C'est pas un énorme chiffre d'affaires pour nous, mais ça permet de se retrouver avec les autres parents d'élèves aussi de l'école qui viennent boire un coup après la sortie des classes. Ça... Et du coup, ce marché de la vacherie, là, à Notre-Dame, il participe à créer des débouchés pour les paysans du coin et du lien aussi. Et je vais y aller tout à l'heure, amener un peu de viande.
Bah donc on va vous suivre.
Ouais, ça marche, ouais.
Le marché de la vacherie, c'est tous les vendredis au nord de la ZAD et ouvert à tous les habitants du secteur. Sylvain est l'un des maraîchers qui y vend ses produits.
Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez ici?
du mesclin, de la roquette, faut que je fasse l'étiquette, des choupées de saille, des blettes, on a des échalotes et des champignons, des pleurotes, qu'on produit, et des légumes qui sont produits par des maraîchers des environs. Voilà, on essaie de faire une coordination maraîchère pour se faciliter la vie.
Là, ici, il y a un mélange en fait de paysans de la ZAD et de paysans extérieurs à la ZAD.
C'est ça, c'est une porte d'ouverture, c'est un lieu de rencontre entre la ZAD, pas la ZAD, les habitants, des voisins qui ont souvent eu des positions un peu mitigées vis-à-vis de la ZAD. Et du coup, là, ça permet de renouer un contact. Et c'est quelque chose qui me plaît, quoi, de ne pas être enfermé dans ce truc de entre-soi, quoi. Du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens, que ce soit d'autres producteurs ou des habitants du coin.
Ça aurait pu exister du temps de la lutte contre le projet d'aéroport, ce marché ?
Je pense que ça aurait été compliqué. Les relations de la ZAD pendant la lutte jusqu'en 2018 avec l'extérieur, avec les habitants des environs, étaient assez difficiles. C'était une zone de lutte forte qui brassait énormément de gens très différents. Enfin, ça fait un microcosme et tout un tas de comportements qui ont mis de la distance avec certains habitants du coin, qui ne comprenaient pas toute la ZAD, et ce que je peux comprendre. Parce que la ZAD, ce que ça a été, c'était très difficile à comprendre. Ça a toujours été des gens très différents, qui viennent de partout, qui viennent pour plein de raisons différentes. Mais je sais qu'il y a des gens qui avaient un a priori contre la ZAD, qui là viennent, donc c'est quand même chouette, c'est quand même bien. Et après, il y a des anciens soutiens, il y a des gens qui viennent voir la ZAD et qui viennent au marché. Il y a des gens qui sont des zadistes aussi, des anciennes zadistes. Et il y a un peu de tout. Ouais.
Là, il y a les premiers clients qui arrivent. On va aller voir. Merci. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez ici souvent ?
Non, c'est la première fois que je viens ici, que je découvre la vache qui arrive.
Comment vous appelez ?
Michel.
Vous habitez où ?
Carquefou, à côté de Nantes.
D'accord.
Ouais. Donc, je viens découvrir ici, puis je suis surpris, quoi. Je suis agréablement surpris.
Pourquoi vous êtes surpris ?
Je suis surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir un petit truc comme ça de commerce équitable. Contrairement à ce qu'on pouvait penser de ce qui s'est passé il y a quelques années, je ne m'attendais pas à avoir un petit résultat comme ça où on voit vraiment les gens qui sont du cru, je suppose qu'ils sont du cru, parce que là, je découvre comme pour la première fois, quoi. Donc,
vous aviez quelle image de la ZAD à l'origine ?
J'avais une image négative, je l'avoue, je n'avais pas peur de le dire. Et petit à petit, j'ai réfléchi, je suis revenu en arrière. Et puis, voilà, quoi. Le résultat, non, j'ai tourné ma veste. Hein. Bon, ok, d'accord, et j'ai changé. J'ai changé. Et avec du recul, je me dis que c'était dommage quand même de détruire toute cette belle nature. Quoi. Voilà.
À l'origine, vous étiez pour le projet d'aéroport ?
Je voyais, je me projetais, parce qu'on voit que tout le monde veut voyager, veut aller plus loin, il faut plus d'espace, il faut plus d'avions, il faut plus de transport. Mais je me dis maintenant, oui, comme je vous disais, non, fallait pas détruire ces arbres. Fallait pas détruire ces arbres. Ça fait beaucoup réfléchir tous ces gens qui défendent la nature.
Et ce marché, il a été ouvert en septembre, et c'est Quentin, qui habite dans une roulotte juste à côté du hangar de la vacherie, qui a eu l'idée de le lancer, et il est juste derrière le bar. Bonjour.
Bonjour France Inter.
Bonjour Quentin. Vous allez bien ?
Oui.
Ce hangar là, il est à vous ?
Oui, je l'ai racheté à ma famille. C'était mes grands-parents qui étaient en ferme ici. Et du coup, à la suite de l'abandon du projet d'aéroport, j'ai racheté à ma famille pour m'installer un projet agricole ici. À quelques centaines de mètres d'ici, là. Et j'avais plus de surface de bâtiment que j'avais besoin. Et aussi, au rapport à tout l'historique de ce lieu, j'avais envie que ça redevienne un espace un petit peu collectif. À la suite de toutes les installations là qu'il y a eu sur, justement, la ZAD, il y avait un besoin de conforter ces installations et de recréer du réseau, et notamment remettre du lien avec les locaux, etc. Quoi.
C'est-à-dire remettre du lien ?
C'est-à-dire que les gens recommuniquent et se connaissent un petit peu. L'objectif de ce marché, c'est aussi de panser les plaies de cette lutte et de passer à autre chose. Les gens finissent tous par boire un verre ensemble, causer. Des milieux qui ne se côtoyaient pas sont en train de se côtoyer, actuellement d'ailleurs.
Et, par exemple ?
Par exemple, là derrière, là, des gens qui étaient pro-aéroport qui sont là, mais c'est très bien.
Hey, j'attends. Il est temps désormais que l'État soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre.
Édouard Philippe, alors Premier ministre.
Le gouvernement a pris sa décision.
Le 17 janvier 2018.
Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population.
Les anciens militants contre l'aéroport, reconvertis en producteurs locaux, comptent bien s'installer dans la durée. Et pour y parvenir, ils ont négocié avec le département de Loire-Atlantique, propriétaire de la majorité des terres sur la ZAD.
Jean-Luc Séchet, vice-président du conseil départemental de Loire-Atlantique.
Au départ, lorsque le département a souhaité racheter les terres, c'était pour sortir de la crise, on va dire par le haut, pour arriver à pacifier les lieux, la situation et les rapports entre l'ensemble des protagonistes, puisqu'on avait eu une situation extrêmement tendue. Deuxièmement, il fallait aussi rentrer dans le droit, puisqu'on avait une zone qui avait échappé pendant plusieurs années au droit. Donc l'objectif, c'était par la passation de ces baux ruraux de revenir dans le droit. Et puis enfin, et c'est ce qui a été dit également, c'était la volonté de conserver une vocation agricole et de pouvoir conserver les espaces naturels. Voilà, c'était les trois grands enjeux qui justifiait le fait que le département permette cette sortie, je dirais, par le haut. Donc il fallait faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter et qu'on réussisse à trouver ensemble un projet de territoire.
Donc finalement, en fait, est-ce que la lutte contre l'aéroport et l'installation de ces nouveaux arrivants n'a pas revitalisé cette zone ?
Alors cette zone a été globalement revitalisée puisque on a aujourd'hui des agriculteurs qui sont plus jeunes que la moyenne départementale et avec des productions plus variées que ce qu'on peut trouver sur l'ensemble du département. Donc c'est plutôt positif en termes de démographie agricole et sur les pratiques respectueuses de l'environnement.
Au niveau de l'habitat, concrètement, aujourd'hui, sur le secteur de la ZAD, il y a des maisons, des corps de ferme qui sont habités par des occupants. Il y a aussi des caravanes, des cabanes. Vous en êtes où de la régularisation ou non des occupants de cette zone de la ZAD ?
Alors, la régularisation est en cours, au sens où il y a des permis de construire qui ont été accordés sur de l'habitat existant ou de l'habitat à construire, à venir. Hein. Et puis, il y a l'habitat qui n'est pas régularisé. Hein. Vous évoquez effectivement les cabanes et les caravanes. Et pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas de solution. Or, l'habitat qui n'est pas régulier, qui n'est pas autorisé, eh bien, n'a pas vocation à perdurer.
Pour vous, il y a un enjeu sur ce secteur aujourd'hui à rétablir la présence des institutions ?
L'objectif final, c'est qu'on arrive à une situation qui soit totalement conforme à l'état de droit. L'objectif, c'est de dire qu'on est dans une zone qui n'est pas une zone d'exception. Elle est une zone d'expérimentation au titre des pratiques agricoles, des milieux naturels, mais elle n'est pas une zone d'exception en termes légal et juridique. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'hésite aussi à employer le terme ZAD, hein, parce que effectivement, ZAD renvoie souvent à la lutte. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette lutte. On est dans le compromis. On est dans la construction. Je parlerai plutôt de zone en voie de régularisation.
Les anciens zadistes ont accepté de négocier avec les institutions sur certaines de leurs activités. C'est le cas pour la forêt de Roanne. Le conseil départemental de Loire-Atlantique en est le propriétaire, l'Office national des forêts, l'ONF, en est le gestionnaire et Abracada Bois, une association de la ZAD, en est le prestataire de services. C'est selon cet accord tripartite que la forêt est désormais gérée. Léa Gage retrouve en lisière de ce domaine forestier Étienne, un membre de cette association.
Moi, ici, je fais du maraîchage en traction animale. Enfin, j'ai plusieurs activités. J'ai ça, c'est mon activité principale. Et puis, à côté de ça, il y a la forêt de Roanne. Et on est un groupe, là, nommé Abracadabois, qui est constitué en association, où on fait les travaux dans la forêt de Roanne. Et du coup, bah, autant aller en forêt pour montrer un peu...
Voilà. Ok, et ben on y va alors. Vous, à l'origine, c'est quoi votre métier ?
Avant d'arriver ici, j'étais cordiste.
Voilà. Avec le bois.
Non. Moi, ça m'a toujours intéressé, la forêt, métier de la forêt, mais assez éloigné quand même. Et c'est en me mettant dedans qu'il y avait quelque chose caché en moi. Je dis, ah ouais, c'est trop bien comme truc, ça me plaît vraiment, en vrai. Et du coup, je me suis formé en bûcheronnage, puis ça a fait son chemin. Enfin, c'est au fur et à mesure, en fait, j'ai trouvé ça trop génial, en fait, qu'on puisse nous-mêmes gérer une forêt et qu'on soit autonome sur le matériau, quoi. Et de A à Z, on maîtrise le bois, quoi. Du bûcheronnage jusqu'au bois d'œuf, quoi. Avoir une maîtrise de notre territoire, de décider de comment est gérée la ressource sur ce territoire. Et après, c'est aussi répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller acheter le bois à l'extérieur. Ici, on a besoin de reconstruire énormément de choses. Et ben, du coup, ça nous permet d'avoir cette maîtrise-là, et c'est ça que j'appelle l'autonomie, quoi.
Vous parlez d'autonomie, mais en réalité, finalement, vous gérez cette forêt pas vraiment tout seul. Vous la gérez avec le département et l'Office national des forêts.
Ouais. Ça, c'est un peu le couteau sous la gorge, quoi. On accepte ce jeu-là, on joue à ce jeu-là. Nous, si on avait eu le choix de racheter la forêt, on l'aurait racheté et on aurait fait 100% comme on aurait voulu, quoi. Nous, on a monté ce qu'on appelle un fonds de dotation. Les gens ont fait des dons et c'était pour le rachat du foncier, dont la forêt. Sauf qu'on n'a pas vraiment eu voix au chapitre. On a beaucoup d'argent. Et du coup, cet argent, on ne peut pas s'en servir pour acheter. Et du coup, on est en train de se poser la question, peut-être qu'il faut que cet argent elle serve à la rénovation. Mais pour ça, il faut changer tous les statuts. Ça, c'est un autre sujet, c'est un truc en cours et tout.
Le fonds de dotation, la terre en commun, a été créé par les zadistes pour acquérir collectivement les terres et le bâti sur la ZAD. Il aurait permis de récolter plus de 800 000 euros depuis 2019 grâce aux dons de particuliers et d'associations. Pour l'instant, deux bâtiments de la ZAD ont pu être rachetés avec ce fonds, une auberge et une maison commune. Ils espèrent acquérir collectivement de nouveaux lieux.
C'est un peu l'année test. Hein. C'est la première année où on est dans cette complète coopération avec l'ONF. Et du coup, c'est notre premier chantier dans les cadres total, quoi, cet hiver.
Dans les cadres légaux, quoi.
Ouais. Avant, c'est nous qui décidons de quel arbre on va couper. Enfin, on a toujours un peu cette maîtrise-là, mais maintenant, on le fait avec l'ONF. Avant, du coup, on faisait nous-mêmes les balades, les marquages et tout. Et maintenant, là, aujourd'hui, ça change. Maintenant, il faut prendre rendez-vous avec l'ONF et on trouve un rendez-vous avec l'ONF et on fait une balade dans la forêt et on marque ensemble les arbres pour les prochains chantiers. Les questions de marquage, ça a été un point très tendu avec l'ONF. Eux, ils ont une façon de marquer les arbres, c'est avec un marteau. Du coup, ils écorcent l'arbre. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas écorcer l'arbre. Et nous, avant, on faisait à la ficelle. C'est-à-dire qu'en amont des chantiers, on faisait des promenades et on mettait une ficelle sur les arbres qu'on pensait qu'on allait couper, quoi. Et dans ce qu'on a gagné dans ce compromis, c'est l'ONF a aussi fait un compromis. Eux, ils voulaient marquer au marteau. Ils ont fait le compromis de faire la bombe. Du coup, on a trouvé un juste milieu, quoi.
Pour vous, la gestion de la forêt comme vous la faites aujourd'hui, elle est différente d'une gestion classique qu'on pourrait avoir habituellement ?
Ouais, totalement, ouais. Nous, on essaye de faire en sorte que la ressource elle soit durable. Du coup, il y en a qui vont aller raser complètement une forêt pour avoir tout d'un coup. Et ça, c'est plutôt un truc plus économique parce que du coup, il y a un gros le portefeuille il est vite rempli. Et nous, on n'est pas dans cette optique-là. Nous, on veut soigner la forêt. Du coup, nous, on essaye de faire en sorte qu'il y a continuellement un renouvellement, quoi. En respectant les sols, en respectant le couvert, tout ça. Du coup, c'est pour ça que nous, on va faire de la futaie jardinée. On va aller chercher un arbre au milieu, quoi. Et en prenant un peu des arbres par-ci, par-là, ça va favoriser les arbres autour de lui, soit en place déjà assez conséquent, à grossir un peu plus, et on se dit, ah, celui-là, ça va être un bois d'avenir, on lui fait de la place, il va grossir un peu plus, ou soit faire de la lumière et amener d'autres essences, d'autres arbres qui vont pousser. Et il y a toujours un cycle comme ça, quoi. En tout, la forêt, elle fait 50 hectares, mais ce qu'on exploite, c'est une trentaine. Et il y a toute une partie qui est en lisière où moi je vis. C'est une forêt jeune et nous, on a décidé dans le plan de gestion de la mettre sous cloche. C'est ce qu'on appelle la libre évolution. Ce bout-là, on n'y touche pas, on la laisse en libre évolution et on voit ce qui se passe dedans.
Le bois est ensuite coupé, trié, stocké au hangar de l'avenir.
Bonjour, ça va vous ?
Moi je m'appelle Nolik. Je ramène le bois qu'on a bûcheronné en forêt ici, que ce soit pour l'association Abracadabra ou que ce soit pour la coopérative bocagère. Mais du coup, moi ma tâche c'est plutôt de m'occuper des travaux forestiers. Il y a une structure ici avec des bâtiments, du matériel qui appartient à la coopérative bocagère, qui est une SAS en fait, une entreprise quoi, légalement quoi.
Tout le travail qui est réalisé ici, comment il est rémunéré ? Il se fait dans quel cadre ?
Donc nous, dans l'ensemble, on n'est pas rémunéré, ou très peu, parce que on va dire que notre rémunération, elle est quand même principalement par notre propre production. Donc en fait, on est dans un système assez vivrier. On essaie de trouver des formes qui sont différentes que celles du salariat, même si c'est pas du tout abouti, notre système, c'est expérimental. Donc on peut, c'est pas un exemple tout fait qu'on pourrait reproduire partout, mais par contre on est dans une recherche. Et dans cette recherche-là, il y a vraiment la question de comment créer des formes de vie qui sont basées plutôt sur, on va dire, la paysannerie et l'artisanat. Et c'est vrai que pour l'instant, comme on passe beaucoup de temps à produire pour nous-mêmes, on peut pas dire qu'on ait une productivité d'un point de vue purement capitaliste, on va dire, qui soit exceptionnelle, quoi. Donc en fait, pour l'instant, les salaires, c'est disons que c'est pas notre priorité. Mais on s'organise au fur et à mesure pour voir, pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de chaque coopérateur, que ce soit d'une manière vivrière ou d'une manière financière, quoi. Et donc on est bénévole, en fait. Après, voilà, il y a quand même une bonne partie d'entre nous qui bénéficions des aides sociales, du RSA, et qu'on, d'une certaine manière, qu'on met à profit pour tenter ces expériences-là. Je tiens à dire aussi que... En fait, actuellement, depuis 10 ans qu'on est ici, on a clairement amélioré le territoire de l'ex-ZAD. En fait, on a rénové énormément de maisons. On a beaucoup de projets agricoles de petites paysanneries qui sont tous en bio et bien plus que le critère basique du bio. Donc, d'une certaine manière, on gaspille pas nos aides sociales comme ça, quoi. Le bois, il a servi aussi à construire des maisons et des hangars et des bâtiments d'exploitation ici. Il n'y a pas longtemps, on a construit un bâtiment de 400 m² pour une exploitation agricole. Notre produit, il n'est pas en bénéfice en termes d'argent, mais il est en termes d'efficacité de ce qu'on a fait sur le territoire.
Juste à côté de la Syrie, il y a l'un des lieux de vie collective, comme il en existe une trentaine sur la ZAD. Il s'appelle Bellevue. Une maison commune qui accueille tout un tas d'activités, de la réparation de machines agricoles partagées à la forge, en passant par la fromagerie. Ici, il y a une règle, la mise en commun. C'est là que se déroule une fois par mois le supermarchouette. Des producteurs de la ZAD y vendent à prix libre et se partagent les bénéfices.
Moi j'ai vécu quelques temps à la ZAD il y a quelques années, du coup c'est comme ça que je connais et que j'en ai parlé aux copines et puis on vient, pas tous les mois mais presque, chercher les bons produits, voilà.
Et donc ici, vous achetez à prix libre.
C'est ça, exactement. On donne ce qu'on veut au prix qui nous semble juste, quoi. Donc, c'est à la confiance, ouais.
Et vous, je peux vous demander votre prénom ?
Marie.
Et donc Marie et Céline, vous habitez pas sur la ZAD, mais vous venez quand même dans ce marché.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai jamais vécu sur la ZAD. J'en ai toujours entendu parler. Je suis venue quelquefois quand il y avait de grosses manifs. mais pas impliquée comme Céline, par exemple. Et le marché, c'est grâce à Céline. Moi, j'adore ce genre d'endroit. Puis à chaque fois, c'est la surprise. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Tout est fait sur place. La farine, ça va de la culture, en fait, du grain à la mouture. Oui, on dit la mouture, ouais. Puis on essaye de faire un prix équitable. C'est pas toujours évident, hein, parce qu'on perd les repères avec une société qui impose des prix. Donc voilà, on se dit... on veut, enfin, c'est la bonne cause. Faut pas donner non plus trop, ça aurait pas de sens. Mais pas donner pas beaucoup non plus, parce que ce serait radin. c'est intéressant. C'est une gymnastique en fait, qui est intéressante. Je suis dans un lieu un peu alternatif, beaucoup alternatif.
La ZAD de Notre-Dame-des-Landes continue d'intéresser le milieu universitaire, comme Sylvain Bull, autrice d'un livre irréductible, enquête sur des milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes. On la retrouve chez elle, à Paris.
Je suis Sylvain Bull, sociologue. Et je travaille sur les mouvements d'émancipation écologique et politique en France et aussi au Moyen-Orient. La question que pose la forme ZAD actuelle, c'est de savoir si au fond ce n'est pas devenu une zone acceptable, une forme d'écologisation d'un projet gouvernemental, puisque la forme actuelle sied, en tout cas en apparence, à tout le monde. Et c'est encore une fois ce jeu de réglage entre faire semblant, pas faire semblant, discuter... pousser les institutions dans leur retranchement, faire aussi un pas à leur direction qui permet quand même de se maintenir, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est de la rendre plus ou moins durable, mais durable politiquement, pas en une forme de durabilité de la transition verte gouvernementale.
Donc pour vous, en réalité, les occupants aujourd'hui de ce que vous appelez la néo-ZAD font en apparence des concessions pour pouvoir maintenir... Ce qu'ils souhaitent maintenir, c'est-à-dire de l'autonomie et de l'autogestion.
Ou en tout cas, ils se prêtent à un jeu de composition avec des instances qui n'étaient pas bienvenues au départ. Pour le coup, là, nous sommes dans une période d'essai, j'ai envie de dire, de voir ce qui peut être tenu. Mais en même temps, les alternatives sont là, elles restent là. En tant que sociologue, moi, j'ai tendance à penser que peut-être nous sommes, pour le coup, dans quelque chose qui est très intéressant, qui est une hybridation, un assemblage de quelque chose qui reste absolument anti-autoritaire et d'obédience anarchiste, et quelque chose qui accepte une composition des biens, mais une composition avec des partenaires. Et je crois qu'on en est là, et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la néo-ZAD, c'est une petite poche d'utopie réelle. C'est-à-dire il y a un réalisme. Il y a l'idée de pouvoir réaliser son idéal d'émancipation, d'écologie ou de décroissance, tout en étant réaliste dans les objectifs, les finalités et les moyens pour y parvenir. Mais l'État ne s'attendait pas à ce que cette zone dure. Et peut-être que ça reste quelque chose de dérangeant et donc du coup de quelque chose de pas si légal que ça. Ce qui fait sans doute peur aux institutions d'État, c'est pas seulement le fait qu'elles durent, parce qu'en plus ce sont des formes d'habitat léger, tout ça peut être balayé, c'est qu'elle n'est pas gouvernable au sens, elle ne peut pas être appropriée par les uns ou par les autres. Et si elle ne peut pas être appropriée par un collectif, par un autre, ou par l'État, ou par le département, ou que sais-je encore, c'est bien qu'elle peut sans cesse se retransformer. Et si elle peut se retransformer, ça veut dire qu'elle durera toujours. C'est un peu comme une plante qui se développe. Les racines sont bien plantées dans la terre.
Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées encore, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Au sud de la ZAD, nous terminons ce reportage dans un lieu dit appelé la Grée. C'est le lieu de ceux qui disent refuser la régularisation en cours dans le reste de la ZAD. Il y a aussi des marginaux. Ces derniers temps, la presse locale a fait état de plusieurs morts par overdose dans ce secteur. Au bout d'un chemin escarpé, on trouve un corps de ferme, squatté. C'est ici que se rendent Léa Gage et Thibault Nassimbel.
C'est là.
Interception sur France Inter.
Alors là, on emprunte un chemin un peu escarpé. Il y a des restes de barricades en tôle et en pneus. Et là, un panneau terroriste, un jeu de mots. Le terreau s'écrit comme le terreau du jardin. On arrive. On est arrivé à la Grée et des occupants de ce lieu, qui se revendiquent comme des marginaux, ont accepté de nous rencontrer. Donc on va les retrouver, ils sont juste là. Ici, c'est quoi ? C'est le salon ?
Ouais, c'est le gîte ici. C'est l'endroit de paix et d'accueil de la Grée.
On peut vous tendre le micro ?
Bien sûr.
Vous, vous vivez ici ?
Ouais, moi je vis, ouais. Ouais, je vis ici.
Et vous vous appelez comment ?
Moi, c'est Fanta.
Et vous êtes là depuis combien de temps ?
Depuis le 13 octobre 2022. Je suis venu et j'ai kiffé, j'ai accroché tout de suite, j'ai compris ce que c'était. Et j'ai commencé à m'installer ici. Au début, je dormais en tente. Et après, j'ai commencé à m'installer ici au gîte. Voilà.
Et à l'origine, vous venez d'où ?
De Paris. Je viens de Paris, de la ville, quoi. Bon, jusqu'à l'année dernière, j'étais encore chez mon père dans le 16e à Paris. Et bon, avec ma famille, ça a toujours été un peu... Hein. Et moi, j'en avais marre du... Enfin, j'avais envie de changer de vie, quoi. Et j'ai... ici, ça me correspond parfaitement. C'est ce que j'ai toujours cherché, au fait, ici. On vit en mode alternatif, on s'entraide, on construit le nouveau monde. Ouais, c'est l'avenir, la ZAD. C'est vrai, hein. Ça paraît... Faut oublier, il n'y a pas que le côté marginal, bordel, punk à chien, machin. Il y a vraiment beaucoup de bonne énergie des idées, des initiatives, machin. Mais sans forcément casser... Moi, je suis pas dans ça. Hein. Je tape les flics, machin. Non, juste construire, c'est tout. Et sensibiliser les gens, leur expliquer ce que c'est. Mais je suis content d'être ici. Ouais, j'ai fêté mes 30 ans ici, là, le 18 novembre. Voilà, j'ai compris ce que ça représente, quoi, la ZAD. Mais il y a des belles choses ici. Il y a des belles personnes. Et ça a beaucoup de potentiel, pour de vrai. Les lieux comme les ZAD, ça, c'est des terrains d'accueil pour des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans le milieu normal, on va dire, dans la vie normale. Moi, c'est le cas, tu vois. À la ville, je n'ai pas travaillé, tout ça. L'école, j'ai jamais aimé. Avec mes parents, ça se passait mal, parce qu'ils ne comprenaient pas ma différence, machin. Ma vision et tout. Et puis, dans des lieux comme ça, ici, au moins, tu n'es pas jugé, tu es libre. Juste, il faut contribuer. On développe notre monde, quoi. Notre vie.
Comment vous avez l'électricité et l'eau ?
D'accord. On se démerde. C'est la ZAD, quoi. C'est... Faut le vivre. Enfin, mais on est des bons, on est gentils. Il y a ceux qui le comprennent, il y a ceux qui le comprennent pas.
Et ceux qui disent, ici, notamment à l'est de la ZAD, il y a des municipalités qui disent c'est une zone de non-droit.
Ah, de son vu ce qui se passe à l'extérieur, je veux dire, leur zone de non-droit, ils font marrer, quoi. C'est partout, donc, ça se casse un peu la gueule, que les gens vivent aussi de manière de plus en plus désordonnée. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ici aussi, parfois, ça reflète un peu les conditions qu'il y a à l'extérieur aussi. Hein. Mais normalement, c'est ici, on est censé fonctionner sans chef, c'est surtout ça. C'est les chefs qui disent qu'il n'y a pas de droit. Mais je ne suis pas sûr que les maires ici soient plus la légalité, ça, quand ça les arrange aussi. Hein.
Votre prénom, c'est quoi ?
Moi, je ne donne pas mon prénom.
D'accord. Et je vais poser une question qui peut fâcher. Dans la presse locale, on parle de décès, ici, dans cette zone.
T'étais au courant, alors, quand même. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est pas des gens qui... Il y a eu en effet des décès là, ces derniers temps, mais c'est souvent des gens qui viennent de l'extérieur. Il y en a partout autour aussi, hein, des gens qui meurent, des histoires de drogue, des histoires de, enfin, de la vie qui... La vie est dure pour certains quand même, et ça c'est pas du tout une spécificité de la zone, c'est parce que nous justement on fait de l'accueil, on reçoit des gens qui arrivent déjà souvent... Mais on a plutôt l'impression qu'on subit les dégâts qui viennent de l'extérieur.
Merci d'avoir accepté de nous parler.
De rien, avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Tu es du love.
Au revoir. On va sortir et on va aller regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. L'organe principal de décision sur la ZAD, c'est l'Assemblée des usages. Dans un premier temps, nous avons eu un accord pour en enregistrer quelques extraits, mais la veille de cette réunion, changement de programme, nous n'avons plus l'autorisation d'y assister. Nous avons pu rencontrer une des participantes, Mona. Les réunions ont lieu à l'Ambassada. C'est un peu l'ambassade de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un lieu de convergence avec d'autres collectifs en lutte ailleurs en France.
Moi, c'est Mona. Voilà, j'habite à la ZAD depuis 2017. Il y a un pan dehors qui apparemment est le pan mâle, bref, qui se déplace parce qu'il y a un pan femelle pas très très loin. J'ai appris ça ailleurs. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup ici. Donc voilà, là c'est l'ambassada. Grand espace quand même de 150 mètres carrés et c'est construit depuis 2017-2018. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu des chantiers successifs avec plein de monde qui sont venus. Et ouais, c'est tout en bois, enduit, terre paille. Et c'est notamment pour accueillir des groupes internationaux, mais aussi voilà, organiser des événements politiques sur la ZAD, organiser des moments de fête. Et il y a aussi toutes nos assemblées maintenant, donc nos assemblées des usages, qui ont lieu une fois par mois ici. Et c'est du coup le moment où on parle des choses communes, de l'habitat sur la ZAD, de l'arrivée des nouvelles personnes, des négociations avec le conseil départemental. Et c'est un espace aussi où on traite des conflits et on en parle aussi ici, ça fait voilà, une espèce de soupape.
Et comment vous prenez les décisions dans cette assemblée ?
Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est souvent, on dit qu'on prend les décisions par consensus. On fait des fois des prises de température, ce qu'on appelle des prises de température, pour montrer voilà si on est d'accord ou pas avec cette idée-là plus tôt. Mais ça s'apparente pas à un vote. Ça veut dire qu'on va pas dire « Ah voilà, là, il y a 18 personnes qui sont d'accord avec cette idée et 5 contre. » Donc, on va écouter les personnes qui sont contre. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est proposé, on écoute les personnes qui sont contre et... voilà, on voit leurs arguments, donc des fois c'est plutôt qu'on aboutit à une décision qui est conditionnée ou qui est modelée avec les différents points de vue de l'Assemblée. En tout cas, c'est notre espace à nous pour nous organiser politiquement à notre échelle et en tout cas sentir aussi qu'il y a vraiment un espace d'organisation politique propre à la ZAD.
Est-ce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes apporte aussi un appui stratégique aux autres luttes contre des projets d'aménagement ?
Oui, évidemment, je pense qu'il y a en tout cas une partie des personnes de la ZAD qui participent étroitement à l'organisation d'actions de blocage ou de désarmement contre des projets dans le coin, donc genre l'extension des carrières Lafarge à Saint-Colomban, mais la construction des méga-bassines dans le Marais. Elles participent de cet ordre-là, enfin en tout cas, ça apporte des idées d'action, donc c'est un appui stratégique en ce sens. Et je pense que là aussi, où on peut parler d'appui stratégique, c'est dans le sens où la ZAD, l'expérience de la ZAD, c'est le fait de se dire que la résistance physique sur le terrain n'est pas suffisante pour gagner une lutte à elle seule, mais qu'elle est nécessaire. Et après, je pense que depuis la ZAD, il y a aussi des initiatives qui ont été initiées. La première assemblée des soulèvements de la terre a eu lieu ici, dans cette salle-là où on se trouve, entre plein de gens, des paysans, des habitants de territoires en lutte, des gens qui sont sur des territoires de ZAD occupés. Et ça a créé les soulèvements de la terre. Et donc ça, on peut dire, voilà, ça vient pas juste de la ZAD, mais en tout cas, la ZAD y a contribué, quoi.
Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il voulait dissoudre le mouvement des soulèvements de la terre qui est donc à l'origine des manifestations contre les méga-bassines et d'autres rassemblements depuis. Il a aussi annoncé qu'il voulait créer une brigade anti-ZAD. Comment vous réagissez à ça, vous qui habitez
dans une ZAD?
Je pense qu'en tout cas, les déclarations du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, montrent bien que la ZAD est un objet politique qui fait peur à la classe politique française, notamment parce qu'elle montre que concrètement, des victoires sont possibles contre des projets d'aménagement. Et voilà, ça rompt en tout cas avec le sentiment d'impuissance et de fatalité que beaucoup de gens peuvent ressentir aujourd'hui face à la catastrophe sociale et écologique, et que la ZAD perdure, soit encore un territoire aussi autonome où il se passe des choses, où il y a d'autres luttes qui peuvent se rendre, qu'il y ait des moments de formation, d'échange et tout, et que ça soit quand même un territoire un peu différent des autres territoires, et c'est en tout cas quelque chose qui fait peur au gouvernement.
Notre-Dame-des-Landes, la ZAD après la bataille. Léa Gage a signé ce reportage. Thibaut Nassimben en a assuré la prise de son. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Éric Boisset. Vous pouvez dès maintenant retrouver cette émission sur le site de France Inter.